avec Suno Assurance IARD RDC qui assure vos biens, votre responsabilité et votre patrimoine financier. Retrouvez-nous à Kinshasa, immeuble Blue Waves Tower. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Priorité Santé vous retrouve pour la première des quatre émissions que nous enregistrons ici à Dakar toute cette semaine. Alors que depuis bientôt un an, nos quotidiens ont été bouleversés par les vagues successives de Covid-19 et qu'aujourd'hui encore, la tension est extrême dans de nombreux services hospitaliers en Europe, nous avons choisi aujourd'hui de parler des virus émergents, de nous intéresser à la riposte vue du Sud, du Sénégal et plus largement de l'Afrique de l'Ouest. Pandémie de Covid décrétée depuis un an par l'OMS et depuis le mois dernier, Ebola de retour en Guinée. En Guinée forestière, la résurgence de cet autre virus a poussé les pays voisins à se placer en état d'alerte, renforçant la surveillance pour éviter des transmissions transfrontalières. Alors, comment les autorités sanitaires font-elles face à ces risques infectieux conjugués? La région a-t-elle les moyens pour évaluer l'impact réel de la Covid-19 en termes de contamination et de mortalité? Au-delà des conséquences sociales et économiques, peut-on déjà évaluer les conséquences pour les systèmes de santé et la prise en charge des autres infections et maladies non transmissibles? Au cours de cette émission, nous parlerons également de la vaccination et de la perception de la maladie, avec la question centrale du renforcement de la lutte contre la stigmatisation qui peut retarder la riposte, menacer la sécurité des patients comme des soignants. Covid-19, Ebola, émergence et résurgence épidémique en Afrique de l'Ouest. Une émission réalisée en partenariat avec le Fonds français Muskoka qui a pour objectif de réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile dans 8 pays d'Afrique francophone. Avec 3 invités autour de moi pour débattre, docteur Marie Remes Ngomdiaye, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes directrice générale de la santé au ministère de la Santé du Sénégal. Avec nous également la représentante OMS Sénégal qui nous fait le plaisir de nous accueillir dans ses bureaux, docteur Lucien Bois, bonjour.
Bonjour Caroline.
Et pour être tout à fait complète, docteur Moumouni Kinda, bonjour à vous.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Vous êtes directeur général de l'ONG à Lima. Et en fin d'émission, nous donnerons la parole au professeur Awamari Kolsek, infectiologue, chercheur, ministre d'État auprès du président de la République du Sénégal, pour nous parler de l'appel à candidature pour le prix Galien Afrique, pour mettre en avant les innovations santé récemment introduites sur le marché africain.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Marie Remes Ngomdiaye, cette pandémie de Covid-19 au moment où la France parle d'une troisième vague avec un nombre record de contaminations par exemple. En France, ici au Sénégal, si on voulait décrire globalement la situation sur le front de cette pandémie du Covid, qu'est-ce qu'on pourrait dire à la mi-mars?
Vous l'avez dit, nous avons été frappés de plein fouet par donc, au début des cas importés, mais nous avons été également pris par une transmission communautaire qui a fait que les cas ont augmenté très rapidement, mais grâce à la vigilance des uns et des autres, mais également grâce à une préparation adéquate depuis le mois de janvier 2020, nous avons donc pu maîtriser la maladie. Jusqu'au mois de septembre, il y a une nette baisse, octobre, et c'est à la 45e semaine, entre la 45e et la 48e, donc on a eu ce qu'on appelait la deuxième vague, qui a été caractérisée quand même par des décès assez importants dus à une augmentation également des cas graves. Donc aujourd'hui, heureusement, nous avons pu renforcer automatiquement tout ce qu'on appelle en termes de coordination. Il faut dire qu'on a eu pendant cette période quand même un investissement assez fort en termes donc de lits de réanimation, de lits avec oxygène, mais surtout une organisation, une méthodologie avec la plateforme de régulation. Il faut dire également que le Sénégal dispose de 2 entités de SAMU au niveau régional dans la zone nord et également dans la zone centre. Et aujourd'hui, depuis 4 semaines, nous notons, mais nous relativisons encore, parce que dans d'autres pays, nous entendons parler de troisième vague, et nous relativisons aujourd'hui cette baisse qu'on a pu obtenir il y a de cela 4 semaines.
Anticipation, mais en même temps prudence, on le comprend bien, on va vraiment reparler de cette capacité d'anticipation. Niveau officiel de contamination assez faible dans la zone ouest africaine, bien sûr, au regard de ce qui se passe dans d'autres zones du monde, hein, Amérique du Nord, Europe, mais malgré tout, ce constat qu'au cours des 6 derniers mois, la pandémie a tout de même progresser Et pourtant, beaucoup estiment que ces chiffres ne reflètent pas forcément la réalité. Qu'est-ce que c'est le constat chez vous, chez Alima, docteur Moumouni Kinda? Comment est-ce que l'on peut être sûr des chiffres qui circulent? Ces données statistiques, elles sont basées sur quoi? Et est-ce qu'il faudrait les améliorer?
Oui, il faut améliorer cette surveillance. Évidemment, les chiffres qui sont donnés ici ont été améliorés au fur et à mesure parce que l'année dernière, en début de pandémie, évidemment que le système de surveillance était faible. Ici, je pense que les systèmes de santé se sont améliorés, ont renforcé aussi bien la surveillance et la prise en charge des cas. Et donc aujourd'hui, on peut dire qu'on a une amélioration par rapport à ces chiffres. Mais il faut signaler quand même qu'au niveau de la surveillance, il reste quand même beaucoup à faire. Parce qu'aujourd'hui, on parle évidemment de plus de 4 millions de cas au niveau africain, plus de 100 000 décès, avec une létalité au niveau africain qui est un peu plus élevée, autour de 2,7% par rapport à la moyenne mondiale. Qu'est-ce que cela veut dire dans la réalité? Je pense qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre et beaucoup de choses à améliorer au niveau de la surveillance de la maladie.
Ce qui peut notamment expliquer un certain nombre de résistances et de réticences de la part des populations à comprendre où en est vraiment l'épidémie entre ce que l'on entend dans les médias et ce que l'on vit dans sa propre réalité au niveau régional. Docteur Lucile Imbois, est-ce qu'on peut voir, par exemple, et contrôler au niveau de l'OMS différentes évolutions d'un pays à l'autre, on va dire? Est-ce qu'on peut non pas donner, bien sûr, hiérarchiser l'efficacité de la riposte, mais de dire s'il y a des pays qui aujourd'hui, dans cette région Afrique de l'Ouest, certains pays s'en sortent mieux?
Il nous a été donné de voir que la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier. Et on peut avoir un bon élève aujourd'hui, mais demain, les choses ne se passent pas de la même manière et on se gardera bien de comparer les pays. Mais tout est basé sur les capacités, sur l'organisation du système de santé. Le Sénégal a gravi quand même pas mal d'échelons en ce qui concerne la surveillance. Pour tous, la COVID-19 était inconnue au mois de janvier, mais les bases de la surveillance étaient en place. Et ils se sont améliorés, la surveillance s'est améliorée tout au long de la riposte. Et en fonction des résultats qu'on avait régulièrement, les stratégies se réajustaient.
Alors justement, cette riposte, docteur Marie Remes Gondiaï, quelles sont aujourd'hui les principales mesures qui, selon vous, ont permis vraiment de contenir? Parce qu'on a vu, il y a eu une petite vague, une vague plus importante qui reste quand même assez contenue. Et aujourd'hui, cette baisse globale du nombre des cas, question très simple, question que se posent beaucoup de pays du monde, qu'est-ce qui a marché ici?
Je pense que ce qui a marché, c'est surtout la coordination. Donc nous sommes allés de façon coordonnée, avec des stratégies cohérentes qui se réajustaient. C'est-à-dire tous les cas suspects, confirmés, étaient automatiquement hospitalisés. Et les cas contacts, ici, la particularité, nous avons pu avoir, je veux dire, de façon des autres secteurs, surtout le secteur du tourisme, le transport aérien, qui avait mis à notre disposition les réceptifs hôteliers. Donc tous les cas contacts étaient au niveau de toutes les régions dans ces réceptifs, si bien que donc on avait accès à ces cas pour pouvoir les surveiller donc correctement. Et surtout quand l'OMS et l'OAS également nous ont dit attention, il y a les autres pathologies, mais également les associations de malades également qui nous saisissaient pour dire qu'il y avait une angoisse, une peur, si bien qu'on ne pouvait pas aller pour nos rendez-vous. On a aussitôt réagi pour dire les cas simples, nous allons les mettre en extra-hospitalier avec l'appui des forces armées. Également, les cas graves. Actuellement, au Sénégal, nous hospitalisons les cas graves. Et automatiquement, même avant la deuxième vague, nous sommes allés dans la prise en charge à domicile avec une surveillance par les équipes mobiles. Et également, nous écoutons la communauté.
Tracé, testé, isolé, vous l'avez appliqué.
Voilà.
Vous l'avez vraiment appliqué.
Et ça qu'on a appliqué aujourd'hui, nous avons vu ce qui se passe ailleurs. On nous parle de troisième vague. Même si on a cette baisse relative encore, moi je mets vraiment des guillemets je dis que nous sommes toujours devant les facteurs favorisants. Aujourd'hui, depuis le 19, nous avons vraiment arrêté certaines restrictions parce qu'il faut dire qu'il y a la santé, mais il y a le reste,
il y a
l'économie
et
du social. Mais continuer à la sensibilisation, la communication sur le risque pour dire que voici les modes de contamination. Si vous ne mettez pas vos masques également, nous allons perdre tous les gains mm-hmm. qu'on avait ces derniers jours. Si vous ne vous espacez pas d'un mètre, 2 mètres, 2 mètres 50, si on ne continue pas l'hygiène individuelle et collective, on va encore faire d'autres dégâts. Mm-hmm. Et puisque nous voulons cette relance économique, je pense que la population est en train de nous écouter.
Alors anticiper, s'adapter, responsabiliser. Vous l'avez dit, hein, toutes les mesures de couvre-feu ont été levées. Si on regarde en arrière, il y a eu quand même, ici comme ailleurs, des épisodes de confinement, de restriction des libertés. Docteur Moumouni Kinda, justement, certains observateurs jugent ce type de réponse assez inadapté au contexte socio-économique, peut-être même contre-productif. Qu'est-ce que vous en pensez? Aujourd'hui, c'est levé, mais comment est-ce qu'on ne ressent pas encore dans certains secteurs très durement les conséquences des restrictions qui avaient été prises ces derniers mois?
Alors oui, c'est des décisions qui peuvent évidemment être controversées, mais je pense qu'elles ont été quand même bien adaptées par rapport à la situation, parce qu'on parle de maladie émergente. On ne la connaissait pas, cette maladie. Et donc je pense que les modèles qui ont marché ailleurs ont été tout simplement répliqués en Afrique. Et je pense que l'Afrique a essayé aussi de moduler sa réponse pour essayer de minimiser l'impact social. Et je pense que c'est quand même une des régions dans lesquelles on a eu moins de difficultés par rapport à la vie économique, même si il faut dire que ce sont des populations qui sont déjà assez pauvres, assez vulnérables. Mais au-delà de ces mesures, je voudrais insister sur le fait qu'il faut absolument développer de nouvelles stratégies pour arriver à lutter contre la maladie. C'est lesquelles ? C'est évidemment de simplifier le diagnostic. Tout à l'heure, on parlait de contrôle, de suivi. Alors, le suivi sera amélioré à partir du moment où nous allons arriver à simplifier le diagnostic de la maladie.
L'accès aux tests, notamment.
L'accès aux tests, simplification des procédés pour tester, mais aussi arriver à trouver un médicament qui soit efficace et qui puisse réduire, on va dire, éviter que les formes les plus simples puissent s'aggraver. Je pense que c'est quand même une des clés essentielles.
Et on n'y est pas encore.
On n'y est pas encore et on a besoin de renforcer le financement, de faire de la recherche pour pouvoir y arriver.
Alors, deux virus émergents au cœur de cette émission. Hein. Covid-19, un an de recul. Ebola, environ 6 ans de recul pour la région, même si bien sûr le virus a été découvert dès le milieu des années 70. Docteur Moumouni Kinda, tout à l'heure, Madame la directrice citait justement les mesures clés, hein, masque, distanciation. Ce qu'on peut dire pour une comparaison, c'est très simple, c'est qu'un message qui doit passer auprès des populations est resté, c'est que pour parler tout simplement, les bons gestes barrières pour le Covid sont également les bons gestes barrières pour Ebola.
Oui, absolument, on peut dire que c'est une simple logique, c'est-à-dire qu'on évite de toucher à des personnes malades ou suspectes d'avoir la maladie, on évite également d'être en contact avec les fluides des personnes qui ont été malades, et comme ça, on évite aussi d'être malade. Donc les bons gestes contre la Covid sont également valables pour la lutte contre les autres maladies type Ebola.
Et si on veut rendre justement ce sujet très concret, ancré dans le quotidien, il y a des personnes qui peuvent penser que c'est anecdotique, mais on va dire mais non, parce que avec Ebola, on a vu la généralisation des points d'eau, de savon, hein, notamment à l'initiative de l'OMS, docteur Lucie Limbois. Quand on rentre dans n'importe quel dispensaire, il y a eu ces fameux points d'eau installés à l'extérieur. Et ce lavage des mains, on va dire que c'est absolument essentiel. Il faut pas oublier les gestes de base, y compris quand on pense à la recherche, quand on pense à demain, quand on pense aux politiques gouvernementales, toujours rappeler aux populations qu'il y a la décision, on va dire, des chefs, mais il y a la responsabilité de chacun, de chacune.
Tout à fait, Caroline. La riposte à la Covid-19 a beaucoup hérité de la riposte à Ebola. Vous parliez du lavage des mains. C'est vrai que depuis quelques années, il y a cette promotion du lavage des mains. Il y a même une journée mondiale qui est consacrée au lavage des mains. Nous avons vu au début de la pandémie toutes ces vidéos qui étaient faites par des personnalités très influentes pour montrer comment se laver les mains. Et je pense que c'était un geste très important. Pour revenir à l'héritage d'Ebola dans la Covid-19, même là, on parlait tout à l'heure de la surveillance. Ce qui a été fait dans le suivi des contacts au moment d'Ebola, c'est exactement ce qui a été fait pendant la Covid-19. Et je pense que nous apprenons des autres événements sanitaires et je pense que l'héritage est là.
C'est important aussi de ne pas oublier pour se préparer pour demain, justement sur ce contrôle des épidémies. Ce retour d'Ebola en Guinée, là aussi, docteur Marie Remes Gomdiaye, quelles mesures ont été prises par les autorités sanitaires pour prévenir forcément la propagation transfrontalière? C'est quelque chose qui avait été plutôt réussi déjà lors de la précédente grande épidémie que tout le monde garde en mémoire dans la région. Qu'est-ce qui a été décidé? Comment est-ce qu'on a déjà reçu l'information? On est déjà en train de se battre contre la Covid. Et revoilà Ebola en Guinée. On doit se dire déjà très mauvaise nouvelle. Comment on réagit?
Dans tout ce que nous faisons, la surveillance occupe une place prioritaire. Parce que c'est parce qu'on a surveillé qu'on a trouvé. Et aujourd'hui, naturellement, je vous dis, au Sénégal, même quand il n'y a pas d'épidémie, nous surveillons plusieurs maladies, particulièrement les maladies hémorragiques. Parce que presque chaque année, depuis 5 ans, nous souffrons avec l'apparition de la dengue dans certains endroits. Ce qui fait qu'en cherchant ces maladies hémorragiques également, nous avons en tête Ebola. Nous, quand on était à la faculté, tout ce qui était hémorragie, on pensait à la dysenterie, on pensait à autre chose. Parce qu'on voyait Ebola du côté de l'Afrique centrale. Mais en 2014, subitement, on a eu un cas, si bien que c'est resté dans nos esprits. Et chaque jour, nous cherchons Ebola, comme nous cherchons la fièvre jaune, comme nous cherchons la dengue, le chikungunya et autres choses. Donc, notre plan de préparation, grâce à la liste de contrôle, ce qu'on appelle checklist de l'OMS, aujourd'hui, nous sortons avec un plan de préparation. Et dans les jours à venir, qu'on va valider avec l'ensemble des sectoriels. C'est important, vous venez de parler de beaucoup d'hygiène. La santé seule ne fabrique pas de savon, la santé ne gère pas l'eau. Il faut que chaque personne s'approprie aujourd'hui de la riposte, parce que sinon, c'est un effet de mode et quand la maladie part, également, tout le monde oublie.
Ne pas oublier, c'est essentiel. Et c'est aussi bien connaître les virus. Hein. Ça passe par des données, contagiosité, mode de transmission, la létalité, la proportion de personnes qui décèdent de la maladie, la période d'incubation, identifier les populations. Des fois, il y a une petite confusion là-dessus, notamment, on va dire, avec la Covid, où il peut y avoir un certain nombre de points communs avec d'autres maladies avec de la fièvre. On pense au palud, on pense à la typhoïde. Les populations vulnérables, l'arsenal thérapeutique, on va dire que pour la Covid, pour l'instant, ça manque plutôt. Et puis, les découvertes, toutes ces informations clés. Docteur Moumouni Kinda, il y a un gros travail à faire sur la recherche. Il y a bien sûr, jamais eu autant de publications dans les revues scientifiques, mais il y a aussi, c'est très important, d'avoir des découvertes qui correspondent au contexte, à la vie que vivent les gens ici. C'est pas la peine d'aller chercher des réponses qui ne s'appliquent pas ici, mais aussi d'aller trouver des réponses qui peuvent être vraiment pertinentes.
Oui, absolument. Il faut investir dans la recherche et la recherche doit s'adapter au milieu dans lequel nous vivons. Et donc, la recherche doit être adaptée au contexte africain. On parle d'Ebola, on parle de Lassa, Chikungunya, la dengue. Alors, il faudrait investir dans la recherche pour arriver à trouver des solutions, des thérapeutiques, des vaccins pour lutter efficacement contre ces maladies. Alors, je fais le lien avec ce qu'on appelle la réticence de la population. Évidemment, quand on a une maladie étiqueté comme n'ayant pas de thérapeutique, avec une forte létalité, il va sans dire que la population, elle va avoir peur, évidemment, d'aller vers le centre de santé et de se déclarer malade de cette maladie.
Donc, c'est particulièrement ce qui s'était passé avec Ebola.
Absolument, c'est ce qui s'est passé avec Ebola. Et les gens, ils ont toujours peur parce qu'on ne leur propose pas de solutions évidentes. Donc, il faut trouver des solutions et on sait qu'on peut arriver à trouver des thérapeutiques. Ça a été le cas. Pour Ebola, on a investi dans la recherche, on a trouvé des vaccins, on a développé également des médicaments.
Des prises en charge.
Exactement.
Parce qu'il faut bien dire qu'au tout début d'Ebola, on isolait les personnes, on ne les soignait pas, mais que depuis, les choses ont complètement changé. Rentrer à l'hôpital, ça ne veut pas dire qu'on va ressortir mort, et il faut le dire, parce que maintenant, il y a des traitements, y compris ce que vous soulignez tout à l'heure, docteur Marie-Rémès Ngomdiaye, concernant la Covid. Il y a eu une amélioration réelle, en quelques mois, de la prise en charge, avec notamment l'accroissement de la capacité d'oxygénation.
C'est vrai, je pense que je vais rebondir sur la recherche. Il faut investir dans la recherche, mais contextualiser ce qu'on trouve dans la recherche. Je pense qu'à l'heure où nous sommes aujourd'hui, on doit être moins angoissé par rapport à Ebola qui va venir. Parce que depuis des années, quand ça a touché l'Afrique de l'Ouest quand même, il y a eu beaucoup, beaucoup d'accélération sur la recherche. Et ce que je dis très souvent, ne pas mettre dans les tiroirs les recommandations de la recherche. Nous devons aller sur quelque chose de dynamique. C'est-à-dire rappeler aux populations régulièrement qu'il y a eu cette maladie, qu'on a trouvé telle chose, mais vous devez continuer.
La santé, ce n'est pas qu'à l'hôpital.
Non, la santé, ce n'est pas qu'à l'hôpital. On peut penser ainsi, mais ce qui s'est passé avec Ebola, mais également la Covid, on est vite dépassé. On est vite dépassé quand nous amenons tout au niveau des structures hospitalières. La preuve, aujourd'hui, au Sénégal, nous n'amenons que les cas graves. Et nous réussissons aujourd'hui, chaque matin, à avoir un plus grand nombre de guéris dans les maisons. Parce que tout simplement, il y a un suivi qui est régulier. Je pense que, comme je l'ai dit, c'est vrai, il y a la recherche, il y a toutes les compétences, mais il faut que des populations comprennent comment on attrape une maladie et comment on s'en sort.
Et il y a aussi ces virus émergents qui bouleversent la donne et les programmes en cours. Docteur Lucie Limbois, justement, je parlais tout à l'heure d'autres maladies qui sont vraiment dans le quotidien des populations, qu'il s'agisse du paludisme, qu'il s'agisse de la typhoïde, mais aussi toutes les autres maladies non transmissibles. Et dans ce contexte, maladies tropicales négligées, finalement, ces virus émergents, ils vont aussi retirer beaucoup d'attention et beaucoup de moyens à tout un tas de risques et de pathologies qui pourtant sont complètement prioritaires. Et l'OMS doit aussi garder cela en tête.
Tout à fait. Je pense que l'OMS a réagi par rapport à cela parce que lorsque la riposte à la pandémie de Covid a commencé dans les pays, elle était vraiment très intense. Cela aussi allait avec la peur des populations de fréquenter des établissements de santé où ils pouvaient être contaminés. Alors, on a développé ce qu'on appelle le neuvième pilier, je pense, de la riposte, où on a parlé de la continuité des services.
Et ça a été particulièrement essentiel, hein, si on fait référence par exemple au VIH-SIDA et au programme de lutte contre la tuberculose, parce qu'on a eu vraiment peur qu'il y ait des ruptures de traitement qui peuvent être vraiment très préjudiciables pour les patients.
Absolument, nous avons les trois maladies, comme on les appelle, le paludisme, le VIH, la tuberculose, mais il y en a toutes les maladies chroniques. Mmh. Tous les patients qui souffraient d'insuffisance rénale et qui ne pouvaient pas avoir accès à leur dialyse, tous ceux qui étaient sous des traitements lourds, mmh. et même la simple crise de paludisme mmh. au quotidien, il fallait qu'elle soit soignée par un personnel compétent. Mmh. Et nous avons vu au Sénégal que la santé de la mère et de l'enfant a été le domaine qui a été la porte d'entrée dans la continuité des services. Et ensuite, les autres programmes ont pris le pas et on a pu rétablir les services habituels pour la population.
Parce que là encore, on avait peur justement que les mamans, les jeunes enfants s'éloignent de toutes ces, notamment, vaccinations essentielles pour la pédiatrie, suivi des maternités pour éviter les grossesses à risque, etc. Et les mamans sont retournées finalement vers les centres de santé. Elles ont eu cette démarche personnelle.
La démarche a été facilitée par aussi la communication, la sensibilisation. Mmh. Il faut savoir que le Sénégal jouit d'un très grand réseau de travailleurs communautaires.
Ça doit aussi être un point essentiel parce que justement, s'appuyer sur tous ces réseaux communautaires. D'ailleurs, tout à l'heure, Madame la Directrice, quand vous parliez de cette surveillance, elle s'est faite aussi par les relais, par les acteurs de terrain qui ont pu aller de maison en maison, demander des nouvelles, comment ça va. C'est ça aussi la surveillance d'une épidémie. Est-ce que tu as eu de la fièvre aujourd'hui? Comment tu te sens? Et puis, s'il y a un problème, on te réfère vers l'hôpital. C'est vrai que c'est absolument essentiel, ces ressources communautaires. Docteur Moumouni Kinda, justement, les ONG, elles s'appuient au jour le jour. Tout à l'heure, on parlait aussi des patients qui ont dit « attention, ne nous stigmatisez pas ». C'est ce qu'on avait vraiment vu avec tous ces relais, notamment pour le VIH.
Oui, absolument. Je pense que l'adhésion communautaire est vraiment un pilier très important dans la lutte contre toute maladie. Et donc, on s'appuie évidemment sur ces relais-là, où que nous soyons, pour passer un certain nombre de messages clés pour arriver à lutter contre la maladie. Alors, je voudrais revenir un tout petit peu sur la question de la surveillance pour signifier l'importance aussi de lutter contre les autres maladies. Vous avez parlé de paludisme, ben, évidemment. Quand on a un cas de fièvre qui nous arrive dans une structure de santé, alors on ne sait pas faire la différence. Et avec les moyens de diagnostic qui sont très lourds, ben, il va sans dire qu'en luttant contre ces maladies qui sont devenues courantes, le paludisme, on va réduire le nombre d'occurrences par rapport à la fièvre.
Ça veut dire qu'il faut augmenter la disponibilité, par exemple, des tests rapides de goutte épaisse dans toutes les structures de santé.
Absolument.
Au lit du patient.
Sur tous les axes de lutte contre ces maladies fébriles-là, je pense qu'en luttant contre elles, on aura moins de fièvre et donc on va faciliter le diagnostic des maladies émergentes.
Alors, il y a deux points justement sur ces épidémies qui sont particulièrement importants. Docteur Marie Rebes-Gomdiaï, dans certaines régions reculées, parce qu'on parle des nouvelles maladies, mais il y a des maladies qui ont la peau dure, la fièvre jaune, on a eu une résurgence dans certaines régions, et ça montre que si on parle beaucoup de la vaccination anti-Covid, eh ben, il n'est pas question de baisser la garde sur le front, on va dire, des vaccinations historiques.
Voilà donc, nous l'avons si bien compris que vous savez, en pleine pandémie Covid-19, nous avons continué, ça n'a pas été facile, à continuer la lutte contre le paludisme. Chaque année, nous devons faire dans certaines localités ce qu'on appelle La CPS, la chimioprévention saisonnière, les aspersions intradomiciliaires, nous avons conduit des campagnes de disponibilité des moustiquaires. Et ceci est extrêmement important. Pour la fièvre jaune, nous venons de terminer dans la partie orientale. Aujourd'hui, la vaccination contre la fièvre jaune, où on avait beaucoup d'inquiétudes, parce qu'à l'époque, les populations disaient que nous ne voulons pas de vaccin contre la COVID. Et certains disaient que peut-être qu'on passerait par la fièvre jaune pour donner.
Là, c'est vaccinés. Encore de la rumeur. Hein?
Voilà, c'est de la rumeur. Et pour freiner cette rumeur, les hautes autorités se sont vaccinées. Les relais communautaires sont rentrés dans les maisons. Vraiment, ça a été une activité locale et ceci est extrêmement important. Aujourd'hui, nous avons des anciens malades de COVID, des communautaires comme des fortes personnalités qui sortent à la télévision pour dire que j'ai été même dans le coma, j'ai eu un cas très grave et voilà, aujourd'hui, je suis guérie. Je et pense également, ça, c'est extrêmement important.
Et c'est vrai qu'autour de nous, on en connaît des dizaines quand on vient de France, de personnes qui ont eu le Covid, des collègues, des confrères qui reviennent travailler. Pour certaines personnes, ça se passe pas trop difficilement. Pour d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. Mais en tout cas, c'est une maladie, même si elle change notre quotidien, c'est une maladie comme les autres. Une maladie quand même qui nous désarçonne un peu, notamment avec tous ces variants. Justement, maintenant, je me tourne vers vous, docteur Lucile Imbois. L'OMS, les variants en Europe, maintenant, on a un variant belge, breton, britannique, on a le variant du Brésil, et puis le fameux sud-africain, on y pense forcément quand on est sur le continent. Est-ce qu'on a des indications sur la présence de ce variant dit sud-africain aujourd'hui dans la région Afrique de l'Ouest ?
Il a été demandé aux différents pays de faire le séquençage à la recherche justement de ces variants. Il y a des pays qui ont des capacités, il y en a qui en ont moins. Mais quand on prend l'exemple de l'Institut Pasteur de Dakar, il reçoit des échantillons des pays voisins à la recherche justement de ces variants-là. Je pense aujourd'hui on peut cartographier par rapport à ce que nous savons venant des pays, là où les différents variants se trouvent. Mais je pense que on doit encore renforcer les capacités pour le séquençage.
Alors, on a vraiment des points communs entre les virus émergents. On a parlé tout à l'heure de ce fameux trio gagnant, testé, isolé, traité. La méthode qui est toujours appliquée, une riposte pertinente face aux deux virus. Docteur Marie Remes-Gomdiaï, on est en train de mettre sur pied en ce moment même où nous parlons la capacité de riposte régionale face à Ebola. Ça veut dire qu'est-ce qui est en train de se préparer ?
Je pense qu'aujourd'hui, on peut quand même magnifier ce qui vient d'être fait par la République centrafricaine de la Guinée, qui, dès les premiers cas de maladie à virus Ebola, a fait la notification au niveau de l'OMS. Donc nous avons reçu, nous, au niveau du pays, officiellement, tout ce qui est en train d'être fait. Et mieux encore, la Guinée nous a invités. Donc les pays de la sous-région au niveau donc de l'OAS pour partager leur expérience également. Nous aussi, nous avons partagé et vraiment, ça a été une excellente donc idée.
Alors justement, tester, isoler, troisième volet dont on va parler tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission, ce sera la vaccination. Et tout de suite, hommage à Tionsek avec ce titre Ngewell. On va se retrouver juste après avec nos trois invités pour continuer à débattre. On va aborder bien sûr la question essentielle de la lutte contre la stigmatisation.
Oh,
Priorité santé sur RFI, Covid-19, Ebola, émergence et résurgence épidémique en Afrique de l'Ouest. Émission enregistrée à Dakar, où on retrouve nos invités, Dr Marie Remes Ngomdiaye, directrice générale de la Santé au ministère de la Santé, Dr Lucie Limbois pour l'OMS Sénégal et le Dr Moumouni Kinda, directeur général d'Alima. On a bien compris, hein, ces virus, ils incitent à l'humilité de chacun, de chacune, des responsables politiques, des scientifiques, des médecins, avec des agents pathogènes qui peuvent dérouter, parfois défier les pronostics, à l'instar quand même des questions posées par la réapparition d'Ebola en Guinée forestière. La date était le 14 février. Très vite, hein, on l'a entendu tout à l'heure avec vous, Madame la directrice, Conakry a communiqué justement sur la maladie. Et les chercheurs ont conclu à la thèse d'une résurgence du virus, une infection donc latente, avec ce terme bizarre de sanctuaire immunologique. Ça veut dire que le virus va se cacher, il va se nicher dans l'organisme et un jour, à la faveur peut-être d'une infection, d'une faiblesse, d'une rencontre malencontreuse, eh bien, il va se réveiller. Docteur Lucie Limbois, est-ce que cette résurgence aujourd'hui s'est confirmée? Est-ce que c'est quelque chose qui est pris vraiment au sérieux par l'OMS ou on est encore simplement au niveau de l'enquête et de la simple piste?
Je pense que cette résurgence est prise très au sérieux. On a vu cette résurgence en République démocratique du Congo. On la voit encore en Guinée. Donc je pense que, partie de ces expériences, il faut vraiment être vigilant et se dire que là où on a eu des épidémies d'Ebola ou d'autres virus émergents, on peut avoir une résurgence de la maladie.
Et précisément, tout à l'heure, nous parlions de la recherche. Ça doit peut-être aussi orienter le travail des chercheurs parce que ça veut dire qu'il faut peut-être adapter des traitements post-infection pour les malades, comme ce qu'on voit un peu pour le VIH, pour qu'ils continuent de prendre un traitement pour éviter ce genre de réactivation virale.
Bien sûr, je pense que la recherche ne doit pas simplement se limiter à la recherche fondamentale. La recherche opérationnelle aussi doit être renforcée et que les résultats de la recherche puissent être utilisés pour pouvoir bâtir des politiques, des stratégies pour les soins, pour tout ce qui peut permettre de lutter contre ces maladies.
Et ça illustre bien ce que disait tout à l'heure Madame la directrice, Dr Moumouni Kinda, sur la vigilance. C'est pas parce que le virus ou un virus est parti ou endormi qu'il faut baisser la garde. Ça veut dire que le travail de suivi, notamment des communautaires, des ONG, ne s'arrête jamais.
Absolument. Je pense que le système de santé et les communautés doivent être permanemment en veille. Pour cette épidémie, nouvelle épidémie en Guinée, je pense que les autorités guinéennes ont pu mettre en évidence l'épidémie de manière assez rapide. Mais on peut quand même tout de même dire qu'on a parmi les agents de santé quelques-uns qui ont été contaminés. Ce qui veut dire quoi? Qu'il y a encore des efforts à fournir en matière de surveillance, en matière de lutte contre la maladie. On a quand même une faiblesse par rapport à la lutte contre Ebola, c'est le suivi, on va dire, des guéris. Donc il faut, comme vous l'avez dit, il faut suivre pendant un long terme les guéris pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe et essayer aussi d'éviter qu'on puisse avoir ce type de réactivation de virus.
Alors un grand sujet, hein, quand on parle des infections, forcément, c'est les vaccins, la stratégie vaccinale. Si on poursuit cette comparaison Covid-Ebola, dans les deux cas, on a de nouveaux vaccins avec un certain nombre d'inconnus en termes d'efficacité, en termes de tolérance, même si en tout cas on a vu les progrès enregistrés grâce à la diffusion de ces vaccins, des logiques très différentes. Docteur Lucile Imbois, pour Ebola, pour bien faire comprendre aux auditeurs, on cible le premier cercle, on parle d'une vaccination ceinture, c'est différent quand on parle de la Covid-19.
Tout à fait. Les stratégies vaccinales sont tout à fait différentes. En ce qui concerne la maladie à virus Ebola, c'est la vaccination en ceinture qui permet de vacciner dans le cercle des personnes atteintes. Mais en fonction de ce que nous savons de la mortalité et de la morbidité à la Covid-19, il a été défini une stratégie qui permet de vacciner en premier lieu les personnes qui ont un certain âge.
Les vulnérables.
Les vulnérables, les personnes qui ont des comorbidités et aussi tous ceux qui sont en première ligne dans les centres de traitement, ceux qui sont dans une consultation de premier contact pour pouvoir les protéger parce que ce sont celles-là qui sont les plus susceptibles d'attraper la Covid-19 et d'en mourir.
Et il y a la fameuse question de la gestion des stocks. Alors, évidemment, on comprend grâce à vos explications qu'on pourrait avoir besoin de moins de vaccins pour une maladie comme Ebola. Malgré tout, à l'initiative notamment de l'OMS, mais aussi des Croix-Rouges, Croissant Rouge et de Médecins Sans Frontières, il y a un stock de vaccins d'Ebola qui existe, une sorte de trésor de guerre. Ça veut dire qu'en cas de résurgence, docteur Lucile Imbois, il y a les moyens en termes de vaccination pour lancer ces campagnes.
Tout à fait. Lorsque la maladie a ressurgi en Guinée, le stock était présent et l'OMS a envoyé ce stock. Et là, je voudrais saluer vraiment la solidarité inter-État, parce que pour des conditions météorologiques qui n'étaient pas satisfaisantes, l'avion qui apportait les vaccins a été dérouté sur le Sénégal et ensuite réacheminé en Guinée.
Des fois, ça se joue à pas grand-chose.
Tout à fait. C'est grâce à ces stocks qui existent que la riposte avec la vaccination a pu aussi se faire.
Alors là, on voit l'efficacité, la réponse immédiate. Ça a été un peu plus compliqué partout sur la planète en ce qui concerne le Covid-19, à l'exception de quelques pays qui avaient fait des stocks massifs et qui avaient anticipé, qui ont pu vacciner très vite les populations. Beaucoup de pays sont un petit peu encore à la traîne, notamment en Europe, notamment la France. Docteur Marie Remes-Comdiaï, où est-ce qu'on en est aussi aujourd'hui au Sénégal? Ça a commencé il y a un mois. Aujourd'hui, vous êtes justement dans cette stratégie d'abord de population cible, de population vulnérable?
Oui, dans le cadre de la préparation. Je dis qu'avec chaque maladie, c'est quoi la maladie? Il faut définir la maladie. Ici, nous avons ce qu'on appelle des comités de veille et d'alerte au niveau communautaire. Il faut dès qu'on leur explique, et cette explication est différente du professeur d'université au relais communautaire. Nous avons la particularité également d'avoir des marraines de quartier, surtout par rapport à la continuité des soins, c'est extrêmement important, la santé de la mère et de l'enfant. Mais nous sommes donc sur ce plan. La surveillance implique extrêmement important, mais également la logistique. Je pense aujourd'hui, quand tout a été fermé, toutes les portes, donc le Sénégal a eu à faire un investissement massif sur tout ce qui est matériel et équipement. Le matériel d'équipement, de protection individuelle, c'est important, parce qu'au-delà de Ebola, je pense qu'aujourd'hui, tous les responsables de structures doivent avoir en tête que les masques maintenant, ça doit être comme les comprimés de paracétamol, etc. Il faudrait qu'on en ait et un stock organisé de façon qui descende à tous les niveaux. C'est important, cette préparation, pour que dès qu'on a quelque chose, pour ne pas être surpris, on va en plan de contingence, comme on a fait avec la COVID-19.
Alors, toujours...
Et aller sur des mouvements d'ensemble, vous l'avez dit, sur la vaccination, je pense qu'il faudrait que l'OMS également et d'autres partenaires puissent aider pour que quand même qu'il y ait de façon équidistante cette disponibilité du vaccin. Certains ont peur en disant « Est-ce que si je prends ma dose d'AstraZeneca, est-ce qu'en juin, je l'aurai ?» Au Sénégal, on a tout fait pour disponibiliser la deuxième dose de Sinopharm. Également, nous sommes dans les mêmes stratégies pour AstraZeneca. Avec ces émissions et l'OMS, on pourra s'en sortir rapidement.
Il faut faire passer les messages. Docteur voilà. Moumouni Kinda, en tout cas, un certain nombre d'ONG se sont positionnés par rapport à la question du vaccin, par rapport à l'accès. On sait qu'il y a l'initiative COVAX, système coordonné par l'OMS, Gavi, Alliance du vaccin pour vacciner à coût réduit 20% des personnes les plus vulnérables dans plus de 90 pays, essentiellement en Afrique. Mais il y a quand même cet appel pour un accès équitable parce qu'aujourd'hui, c'est toujours pas acquis que tout le monde, tous les pays auront le nombre de doses de vaccins qu'ils souhaitent pour protéger leur population.
Oui, je pense que le monde entier est concerné par cette pandémie-là et il est vraiment très important de ne pas oublier les pays pauvres. Parce que si l'Europe et les pays riches se vaccinent, si les pays pauvres ne suivent pas, évidemment, on n'arrivera pas à contrôler cette pandémie. Et je rappelle que l'initiative COVAX, c'est de couvrir 20% quand même de la population. Et aujourd'hui, on a quand même des indications qui montrent qu'il va falloir aller beaucoup plus large que cela. On a des vaccins qui arrivent dans le continent, mais je pense que le rythme de vaccination également ne suit pas. Donc, il faut aller très vite parce que, comme vous l'avez dit, on a des variants. Et on a potentiellement demain des résistances par rapport à certains vaccins qui vont arriver. Donc, il faut que l'Afrique et les autres continents puissent suivre, on va dire, le rythme par rapport aux pays les plus riches.
C'est pour ça, on disait tout à l'heure, en tout cas, un devoir d'humilité, surtout pas crier victoire. Il y a un dernier point qu'il faut absolument aborder ensemble, c'est celui de la lutte contre la stigmatisation. Là encore, c'était quelque chose de pointé d'emblée sur Ebola. On se souvient bien des mouvements de panique, y compris des agressions contre des médecins, parce qu'on avait peur de la maladie, parce qu'on avait peur aussi d'être contraint de ne plus enterrer dignement les anciens, de ne plus enterrer dignement les morts, parce que tout cela heurtait aussi la tradition et les usages que l'on rencontre dans toutes les sociétés. Il y a des façons justement d'organiser les naissances, les mariages, comme les séparations, les morts. C'est vrai qu'on a vu le travail des anthropologues conjointement à côté des médecins, à côté des infirmières. Docteur Lucie Limbois, aussi lutter contre les stigmatisations, c'est vraiment une permanence pour la santé.
Tout à fait, la stigmatisation freine les interventions de riposte. Et c'est pour ça que pour la COVID-19, nous avons beaucoup travaillé avec le ministère de la Santé et les socio-anthropologues pour pouvoir adapter les messages génériques, en tout cas que l'OMS ou les autres partenaires développent à l'endroit des pays, pour d'abord en faire des stratégies de communication et d'intervention communautaire, mais dans un deuxième temps, développer des messages qui soient adaptés au contexte et ensuite traduits dans les différentes langues du pays. Et je pense que ça a été très bénéfique de co-construire avec les communautés les réponses et trouver des solutions pour pouvoir mieux lutter contre la stigmatisation et mieux faire passer les messages sur l'utilisation des gestes barrières.
Et c'est vrai que ça peut paraître particulièrement compliqué, hein, docteur Marie Remes Ngom Diaye, quand on isole des patients, ensuite, de les faire ressortir de chez eux, reprendre la vie, même quand on a survécu à Ebola, être étiqueté survivant, c'est déjà quelque chose d'assez lourd, et de lutter contre cette stigmatisation. On l'a fait tout à l'heure en parlant justement des personnes guéries qui reprennent leur vie, normalement. C'est un message à faire passer, c'est peut-être le message parfois le plus compliqué.
Pour la COVID, je pense qu'on a eu au départ des messages très très violents. Il fallait les isoler, etc. Mais nous comprenons, parce qu'il y avait une angoisse du côté des professionnels comme du côté de la communauté. Et aujourd'hui, au Sénégal, on a eu même des problèmes, comme dans les autres pays, pour des enterrements. Mais avec les résultats de la recherche, nous sommes rendus compte avec une désinfection très spéciale. Donc, on peut enterrer dignement nos morts et ce que nous sommes en train de faire. Donc, nous aidons les parents avec une désinfection antérieure, vraiment avec les hygiénistes, la Croix-Rouge, vraiment qui fait un excellent travail. Et après, nous remettons donc le corps à la famille, parce que nous sommes donc des Africains, on a des rituels quand même à faire, et tant qu'on ne les fait pas, nous pensons que vraiment le mort ne va pas bien dormir, etc. Donc, et nous avons réussi cela quand même aujourd'hui dans le pays, et je pense que nous entendons moins de problèmes par rapport à ces enterrements et par rapport à la stigmatisation.
Docteur Moumouni Kinda, le mot de la fin, on a dit tout à l'heure, on a souligné l'importance du travail des acteurs communautaires, on va dire aussi qu'en termes de lutte contre la stigmatisation, ils sont absolument essentiels.
Absolument, ils sont absolument essentiels et je pense que on échouera si on n'a pas la communauté avec nous. Donc il faut les impliquer dans toutes les stratégies, dans la lutte contre toutes les maladies, y compris dans la lutte contre la COVID.
Merci, merci à tous les trois d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup pour votre participation à cette émission consacrée au virus émergent en Afrique de l'Ouest, émission réalisée en partenariat avec le Fonds français Muskoka qui contribue à la lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile dans 8 pays d'Afrique francophone. On se retrouve dans quelques instants, toujours à Dakar. Et l'on retrouve dans Priorité Santé le professeur Awa Marie Colset. Bonjour.
Bonjour.
Madame la ministre, vous êtes infectiologue, chercheur, ministre d'État auprès du président de la République du Sénégal. Et on vous donne la parole aujourd'hui à Dakar pour parler du prix Galien Afrique qui distingue l'innovation santé en Afrique. Avec professeur, un appel à candidature, hein, comme pour tout prix, il y a un calendrier, il y a des échéances qui sont fixées. Appel à candidature pour établir une première sélection. Et ce prix Galien, eh bien, il vise chaque année à décerner l'excellence en matière de produits, de dispositifs qui ont été récemment mis sur le marché. Ça veut dire qu'on n'est pas dans le projet, dans le futur, mais on est bien dans le présent de la santé.
Tout à fait. Et ce sera la première fois pour l'Afrique, puisque le prix Galien a 50 ans. Et c'est la première fois que nous allons avoir ce prix Galien en Afrique, bien qu'il existe déjà au Canada, en Belgique, par exemple, en France. Et en Chine bientôt.
Alors la recherche appliquée hein, qui est au centre de ce prix, la recherche, les applications pour toute la communauté médicale, les biotechnologies dans la région. Et justement, ça s'adapte à cette région puisqu'il y a y compris un prix pour les produits issus de la tradithérapie. Ça, c'est vraiment quelque chose de novateur.
Ben oui, parce que nous considérons que la médecine, d'une manière générale, n'est pas seulement une médecine occidentale. Elle est aussi ce que nous avons de plus cher depuis nos ancêtres, toutes ces plantes, toutes ces manières de faire. qui sont à la disposition aussi des populations. Et c'est important que l'Afrique ait aussi sa spécificité.
Ça veut dire aussi que ce sont des produits qui sont adaptés à son public, adaptés à sa culture, adaptés à ses patients. Et ça correspond aussi en même temps aux préoccupations sanitaires propres à votre contexte, les maladies notamment tropicales. Ça veut dire qu'on va chercher sur des maladies en particulier ?
En réalité, on ne sait pas encore, parce que c'est ouvert. Vous savez que il y aura plusieurs prix. Un prix qui s'occupera des produits qui sont les plus innovants en matière pharmaceutique. Il y aura également un prix pour la biotechnologie, cette radiothérapie dont on parle, mais également, il y a tout ce qui est dispositifs médicaux, diagnostics, les équipements, toutes ces choses-là pourront être primés, ce qui veut dire que on est très ouvert et on voudrait pas, avant même qu'il y ait de candidats et que les jurys se réunissent, qu'on puisse déjà orienter les choses.
Alors, pour vous, malgré tout, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les critères ? Qu'est-ce qui fait une bonne innovation pour vous en matière de santé ?
Vous savez, il y a énormément aujourd'hui de maladies, c'est pas simplement les maladies infectieuses, mais aussi les maladies non transmissibles. C'est vrai, il y a un large éventail et une large possibilité d'avoir des produits, des médicaments ou même des plantes qui pourraient vraiment améliorer la santé des populations. Et nous avons pas seulement l'innovation dans l'esprit, mais également le fait que ces médicaments aient un impact sur la santé et le bien-être des populations africaines.
Est-ce que ça veut dire que les questions d'accès ou de coût seront prises en compte ?
Nous avons bien sûr là aussi un problème de coût. C'est sûr qu'un produit extrêmement cher sera difficilement primé pour l'Afrique parce qu'il n'aura pas peut-être son impact sur les populations africaines. Mais on a aussi à réfléchir parce qu'un produit peut être cher, peut être coûteux, mais avoir des initiatives qui permettent aux Africains d'avoir accès à ces produits-là. Donc là aussi, nous ne sommes pas du tout fermés. Nous pensons que ce serait possible. Mais c'est vrai que l'impact est un élément important.
Alors en termes de calendrier, là c'est donc l'appel à candidature. Quelles seront les prochaines étapes, Madame la Ministre ?
L'appel à candidature au plus tard fin mars. Donc ça c'est clair, c'était le premier trimestre qui était notre objectif. Puis nous allons avoir bien sûr des rencontres avec les membres du jury. Et le jury devrait, au plus tard vers le mois d'octobre, avoir peut-être sa dernière réunion pour pouvoir identifier les prix dans les différentes catégories, pour que le prix puisse être vraiment décerné ou les prix puissent être décernés au mois de décembre, au moment du Forum Galien Afrique. Pour nous, il y aura sans doute une partie en présentiel et une partie en virtuel. Sinon, on va en virtuel complètement. Nous l'avons fait l'année dernière et je peux vous dire que c'était un grand succès. Tous les thèmes ont été abordés et le thème principal, c'était Covid.
Et on y est encore. Merci beaucoup, professeur Awa Marie Colsec, d'avoir répondu à nos questions. Merci pour ces explications. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à Ophélie Lassen qui a préparé cette émission ici à Dakar, Richard Rifono et Didier Bleu à la réalisation. On se retrouve demain, toujours à Dakar, pour une émission consacrée aux médecins de demain. Rencontre avec trois étudiantes de la faculté de médecine de l'université Cheranta Diop. D'où vient leur vocation ? Qu'est-ce qui a forgé leur motivation ? Nous leur donnerons la parole et nous espérons que vous serez bien là à l'écoute. À demain, d'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance IARD-RDC qui assure vos biens, votre responsabilité et votre patrimoine financier. Retrouvez-nous à Kinshasa, immeuble Blue Wave Tower. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Autour de la question. Caroline